Vous êtes à la bonne place ce matin, n'est-ce pas? Une place qui a été créée dans la pensée même de Dieu, notre Créateur. Il a voulu que ses rachetés, ses élus se réunissent pour l'adorer et qu'on proclame l'Évangile, sa parole. Et il a gardé cette parole-là depuis toujours, il a gardé cette parole-là pour qu'on puisse en parler, être enseigné, être transformé par cette parole-là, aujourd'hui, encore en 2014. Genèse, chapitre 7, nous allons lire les versets 1 à 16 d'abord, puis on continuera avec les versets 17 à 24. Alors, si vous avez votre Bible, je vous invite à le faire, tournez avec moi, ouvrez vos iPods, vos téléphones intelligents, tout ce que vous avez comme matériel biblique ce matin, ouvrez-le. Lisons ensemble le récit de l'Arche de Noé, le récit du déluge, tel qu'exprimé par la volonté de Dieu qui a soufflé cela à Moïse. Genèse chapitre 7, nous lisons comme suit. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'Arche, toi et toute ta famille, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, les mâles et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche de Noé Sem, Cam, Japhet et Japhet, fils de Noé, la femme de Noé et les femmes de ses trois fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes, ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, et toute chair ayant souffle de vie. Il entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé, puis l'Éternel la ferma la porte sur lui. Merveilleuse histoire, n'est-ce pas? Dans le chapitre 6, Dieu passa une commande à Noé. Il a dit à Noé, « Vas-y Noé, tu vas me construire une arche. » Et il prend le temps de dire à Noé la raison pour laquelle Noé doit bâtir cette arche. Et il lui donne même des précisions quant à les dimensions. Nous avons vu ça avec notre pasteur Richard il y a quelques semaines. Les dimensions exactes de cette arche-là qui devrait être construite par Noé. Dans le chapitre 7 que nous venons de lire, nous voyons une reprise de cette commande-là, n'est-ce pas? Mais avec beaucoup plus de précisions, beaucoup plus de détails sur cette commande-là. Et quand on regarde, on voit que c'est une tâche colossale, n'est-ce pas? Une grande tâche, une tâche énorme. Premièrement, la tâche, c'est de construire une arche avec les dimensions indiquées dans le chapitre 6. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Je pense que quand on lit les critiques, on pense que encore aujourd'hui, il n'y a pas de navire qui a été fait, qui a été conçu de cette grandeur-là. D'abord, dans ce temps-là, ça a suggéré beaucoup de critiques par rapport à la véracité de ce fait-là. Et peut-être que nous, en tant que chrétiens, on aurait des hésitations à croire à cela aussi, n'est-ce pas? Mais c'était la commande que Dieu a passée à Noé, de construire une arche avec cette grande dimension-là. Beaucoup de gens ne croient pas à cela. Et l'idée même de construire une arche avec ces dimensions-là est une chose quasiment impossible, pour les incrédules, bien sûr. Et pour ceux-là qui sont pour cette forme de pensée des négatifs par rapport à la construction de l'arche, pensant que c'était impossible comme ouvrage à faire, ils vont dire que la technologie d'alors ne permettait pas qu'on puisse bâtir une arche de cette envergure, n'est-ce pas? Ils vont dire que dans ce temps-là, il n'y avait pas de la technologie pour bâtir cela. Et moi, je n'ai pas de misère avec ça. Et le premier argument que j'aurais pu lancer à ces incrédules-là, c'est qu'aucun de nous n'était là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était là? On n'était pas là. Fait qu'on ne peut pas parler de technologie, on n'était même pas là. On ne sait pas quel genre de technologie qu'il y avait dans ce temps-là. On pense qu'il y avait des technologies moindres que ce que nous avons aujourd'hui, mais qui sait? La Bible ne le dit pas. La Bible nous dit que l'arche a été construite d'après les instructions du Seigneur. Deuxième argument, c'est que l'homme est un être créé à l'image de Dieu. C'est un homme intelligent. L'homme a une intelligence incroyable et qui dépasse notre compréhension, n'est-ce pas? Et nous croyons que Dieu continue encore aujourd'hui, comme il l'a fait dans le passé, d'habiliter l'homme à faire des choses pour accomplir ses desseins, n'est-ce pas? Si on est chrétien, on doit croire à cela. Et c'est ma position par rapport à ces incrédules qui peuvent penser que la technologie d'alors n'était pas là pour répondre à cela. Mais nous pourrons aller chercher dans la Bible même des arguments contre ce genre de pensée. Dans le chapitre 4, verset 2, nous l'avons vu il y a quelques semaines. Qu'est-ce qui est dit dans le verset 2? Tournez avec moi, juste pour le fun. C'est la Bible, c'est pour ça qu'on est venu ici. Voyons ce que la Bible nous dit par rapport à cela. Chapitre 4, verset 2, il nous dit, en parlant de Caïn, en parlant de Ève et de son mari Adam, il dit, elle enfanta encore son frère Abel. Et il dit, Abel fut berger et Caïn fut laboureur, n'est-ce pas? Je ne peux pas comprendre que dans ce temps-là, Caïn soit laboureur, qu'il soit prêt à labourer avec ses mains. Vous êtes d'accord? S'il a pu être un laboureur, il avait des capacités de faire des outils. Et certainement, on ne pouvait pas travailler une terre maudite par Dieu. Dieu avait maudit cette terre-là, vous vous rappelez plus tôt? Dieu avait maudit cette terre-là, fait que les ronces, les épines, les pierres vont pousser dans cette terre-là. Et s'il n'y avait pas une technologie, comment est-ce qu'il aurait pu labourer cette terre-là? On parle de Caïn déjà dans le chapitre 2, dans chapitre 4, verset 2. Plus loin dans le verset 22, le texte nous dit, n'est-ce pas, s'il a, de son côté, c'est l'un des descendants de Caïn, bien entendu, dit Caïn, tu bel Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. Bon, il y avait du fer. Il n'y avait pas des plantes de fer. Je pense que l'homme a une technologie d'exploiter la terre. Dieu a donné cette capacité d'exploiter la terre que Dieu a créée pour soutirer les reins, pour en tirer du fer. Il a donné à ce gars-là, Caïn, tu bel Caïn, une compréhension. Hein, de travailler ces métaux-là pour faire des instruments. On est d'accord. Fait que, si on parle de technologie, il y avait des technologies. Et peut-être que cette technologie de comprendre ou bien de soutirer les métaux de la terre lui permettait de faire des clous, je ne sais pas. Mais c'est clair qu'il y avait une technologie d'alors là. Alors, celui-là qui dit qu'il n'y avait pas de technologie, fait que, pour moi, ce n'est pas un argument solide. Il y en a qui disent aussi, notre grand problème, c'est le fait qu'on ne sait pas comment est-ce que Noé va pouvoir aller chercher tous les animaux, là, il parle d'un mâle, une femelle dans chaque espèce. Cette espèce-là sont distribuées où ça? Partout, hein? Comment est-ce que Noé va faire appel, va s'arranger pour prendre une espèce de chat? Il y en a qui disent, c'est pas vrai, c'est impossible. Et moi, je n'ai pas de misère avec ça non plus. Je vous invite donc à tourner avec moi dans Exode 35. Je vous mets en situation. Exode 35. Cherchez-le, vous allez en être convaincu. C'est une histoire excellente. Vous allez l'aimer tellement qu'après le culte, vous allez passer du temps à la maison avec ça pour comprendre ça, pour le creuser plus profondément de votre Bible. Alors, Exode 35, on avait dit. Alors, je vous mets en situation. Dieu demande à Moïse de construire un tabernacle, un autre grand bâtiment. Et ça prend des ouvriers, n'est-ce pas? Avec toutes les dimensions, si vous lisez le 34, chapitre 34, 35, vous allez voir des termes spécifiques, des précisions que Dieu demande à son peuple, à Moïse, comment bâtir ce tabernacle-là. Puis, s'il n'y avait pas de technologie, ben comment est-ce que ça pourrait se faire? Mais comme je dis, Dieu rend capable, n'est-ce pas? Verset 32, et nous, comme je vous dis dans cette situation-là, c'est qu'on devait bâtir un temple. Et Dieu avait besoin de ces ouvriers-là, il les a habilités. Et nous lisons le verset 32. En fait, commençons avec le verset 31. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Verset 32, il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. Fait que Dieu a donné ces capacités-là aux hommes. Il est capable, l'homme était capable de créer des choses. Et si nous allons lire l'histoire de, peut-être qu'on n'aura pas le temps, si on parle de ces animaux-là qu'il fallait rentrer un à un, deux par deux, qui d'après certains semblent être un problème, un obstacle insurmontable. Est-ce que vous connaissez l'histoire des corbeaux? Élie, dans 1 Roi 17, vous irez lire ça. Dieu va demander au corbeau, il va dire à Élie, va-t'en te cacher dans la caverne, puis moi là j'ai commandé au corbeau de venir te nourrir. Ça c'est le Dieu qu'on sert. Et ce Dieu-là n'est pas capable de faire que chaque espèce vienne voir Noé. Il a commandé à Balaam. Vous vous rappelez l'histoire de Balaam dans l'ombre? Vous irez lire ça. Dieu a demandé à l'âne de Balaam. Balaam, vous connaissez l'histoire. Puis son âne, il a frappé son âne. Puis son âne a ouvert sa bouche pour dire, maître, pourquoi tu m'as frappé? C'est pas normal. Mais le texte nous dit, Dieu a ouvert la bouche de l'ânesse. Est-ce que Dieu a ouvert la bouche comme ça? Non, certainement que non. Dieu l'a rendu capable de répondre, de donner ce message-là à son maître. Vous connaissez toute l'histoire de Balaam. Fait que ce Dieu-là qui demande à Noé de construire cette arche-là, le connaissant, on sait qu'il a donné les moyens à tout l'environnement de Noé de bâtir cette arche-là. Il va donner l'intelligence à Noé, n'est-ce pas? Il va donner les ressources matérielles et les ressources humaines pour la construction de l'arche. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est le Dieu qu'on sait. Il ne l'a pas donné. Dans le texte, il demande à Noé, mais on sait que Dieu ne va pas laisser tout seul. Tout seul, Noé ne serait pas capable. On veut comprendre que Noé avait l'aide de ses enfants, et sa femme, ses belles-filles, etc. Mais sans l'aide de Dieu, embarquer tout ce monde-là dans un projet aussi fou que bâtir un arche, c'est impossible. Il n'a jamais plu. Noé était malade. Mais Noé a cru parce qu'il croyait en Dieu. Dieu lui a demandé de faire une chose. Il a cru à cela et nous avons vu dans Hébreux chapitre 11 que notre pasteur avait invoqué la dernière fois. Comment c'est Noé a par soumission, par une crainte, il a répondu à l'appel de Dieu, il a bâti cette arche-là. Et nous croyons que Dieu était tout le temps en partenariat avec Noé. Il lui a donné ce qu'il fallait, l'intelligence, tout ce qu'il fallait, l'aide qu'il fallait pour bâtir cette arche-là. De toute façon, le salut de Noé, c'était le plan de qui? C'est le plan de Dieu. Noé n'a pas pensé à son salut. Il ne savait même pas qu'il allait avoir un déluge. C'est le plan de Dieu. C'est la même chose pour nous en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a à faire? Accepter Jésus-Christ. Accepter Jésus-Christ si on veut passer à travers. On va le voir plus tard. Il va avoir un autre jugement à venir. On parlait tantôt des noces de l'agneau, mais avant les noces de l'agneau, il va avoir un jugement. On peut être épargné de ce jugement-là, et la Bible est très claire par rapport à cela. Alors, une chose est claire, que Dieu n'a pas laissé Noé à lui-même, à lui seul, pour bâtir cette arche-là. Et il a utilisé, dans les versets chapitre 6, si nous revenons à notre texte, et dans les versets 6, si nous croyons que Noé était abandonné à lui-même, regardons dans le verset 20, là, ok, quand Dieu lui donne sa commande, dans le verset 20, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, deux de chaque selon leur espèce, viendront vers toi. Dans tout le texte là, je n'ai pas vu un thème où Noé a été obligé d'aller chercher les animaux. Le texte même nous dit, ces animaux-là viendront vers toi. Dieu était à l'œuvre dans toute cette affaire-là. C'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui agissait et puis il voulait punir le péché comme ça devrait l'être. Mais lui aussi voulait sauver cette famille de huit comme un prototype de ce salut que nous avons en Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui va laisser accomplir quand le temps s'était accompli sur la croix. C'est ce que nous venons de se rappeler maintenant. Dieu était à l'œuvre et Noé, il a obéi. Et Dieu, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et Dieu a voulu que ce soit comme ça pour le salut de Noé. Une chose intéressante, c'est que Noé avait une influence sur sa famille. Verset 7, on le voit. Noé entra dans l'arche avec ses fils et ses filles. Est-ce qu'ils étaient sans péché? Absolument pas. Et nous avons vu ça aussi avec notre pasteur Richard. C'est la grâce de Dieu aussi qui a fait que Noé soit passé à travers les eaux sans se faire tuer, qu'il soit le seul couple, la seule famille à être préservée de ce jugement. Et dans tout le texte aussi, je vois qu'il n'est pas question que Noé force les animaux à entrer. Il a dit, il entra dans l'arche. Ils entrèrent dans l'arche, comme s'il y a un mouvement, quelque chose qui les poussait à venir vraiment entrer dans l'arche. Et nous voyons tout ça à la main de Dieu qui orchestre toute cette histoire-là pour sa gloire. Une chose que j'ai remarquée aussi, ce sont les précisions qui sont données ici. Avez-vous vu ces précisions-là dans le chapitre 11, dans le verset 11? L'an 6 ans de la vie de Noé, le second mois, le 17 jour du mois. Waouh! Je ne pense pas que les fables donnent des précisions comme ça, hein, quand on lit les fables. Non, ils ne donnent pas de précisions, c'est vague. Mais nous croyons que ce texte-là, qui est un texte inspiré, est vrai. Non seulement parce qu'il donne des précisions, mais c'est parce que c'est un texte de Dieu aussi. Mais c'est intéressant de remarquer cela, que les précisions sont là. Et dans le chapitre 8, nous allons voir que après le déluge, les précisions sur la place où le bateau, l'arche, s'est arrêté, sont là aussi. La Bible va nous dire exactement où c'est. Fait que c'est des choses qui nous, en tout cas, qui me parlent de la véracité de cette histoire, d'autant plus que c'est Dieu qui l'a inspiré. Et nous voyons l'œuvre de Dieu à travers tout cela. Mais une chose à retenir, c'est que Dieu a voulu juger le monde. Il y avait une justice à accomplir par le déluge. Et cette justice s'est accomplie en tuant tout ce qui existait, tout ce qui avait vie sur terre. Et après que Noé et tous ses enfants, souvent qui ont été impliqués dans la construction de cet arc-là, qu'ils aient rempli cette commande-là, qu'ils ont fait rentrer, que tous les animaux et les enfants, toute la famille de Noé soient rentrés dans cette arche-là. Dans le verset 16, qu'est-ce qui est dit? Il est dit, il entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Ça, c'était la job de Noé, n'est-ce pas? La job de Noé, c'était de construire une arche, puis faire que tout ce monde-là soit rentré avec la provision qu'il faut pendant un certain temps. Là, la tâche de Dieu va commencer. Qu'est-ce qu'il dit dans la prochaine phrase? Puis, l'Éternel ferma la porte sur lui. Après tout cela, 120 ans de prédication, je trouve intéressant que même après que les animaux et les hommes sont rentrés dans l'arche, d'après ce que je comprends dans le chapitre 7, 7 jours, Dieu a attendu encore 7 jours avant que le déluge ne commence. Moi, là, ça me dit, ça me parle encore de la grâce de Dieu. Je veux comprendre que Dieu a vous souhaité que quelques-uns, là, auraient changé d'avis après la prédication de Noé pour se joindre à ce petit groupe qui ont cru en lui. Non, personne n'a décidé d'accepter la prédication de Noé. Personne. Et Dieu a fait grâce à cette famille-là. Mais maintenant, le jugement va commencer. Attache-toi, là. Le jugement va commencer. Nous savons ce qu'on va lire dans les versets 17 à 24. Je vous invite à tourner avec moi. Après que Dieu ait fermé la porte, c'est lui-même qui a la clé. Le déluge commence. Verset 17. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et se soulevèrent l'arche. Et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui mouvait sur la terre périt, tant les animaux que les bétails, et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre, et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines, et qui était sur la terre sèche, mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre, il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Pouvez-vous penser à 150 jours de pluie à Montréal, 40 jours, 40 nuits de pluie à Montréal, et les eaux qui sont grosses, sur la surface de Montréal pendant 150 jours? Tout le monde serait mort, n'est-ce pas? Tout le monde serait mort. Ça, c'est l'ampleur de ce jugement que Dieu avait exécuté dans le temps de Noé. Le texte nous dit que toutes les montagnes, voilà, c'est ce qui est dit, les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, puis les eaux grossirent en plus, de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. C'est ce que Dieu dit. La terre a péri. La terre a péri. Toutes les montagnes, même ceux qui étaient les plus hautes, étaient couvertes en plus de 15 coudées. Fait que l'arche a flotté par-dessus tout. Ça ne peut être que l'intervention divine, n'est-ce pas? C'est Dieu qui peut faire ça, et c'était Dieu à l'œuvre, malgré que c'était un Dieu d'amour. Il n'a pas changé de sa nature. C'était Dieu lent à la colère, riche à monter. Mais c'est un Dieu qui hait le péché au point d'exterminer toute la race humaine, incluant les oiseaux et les animaux, à cause de la méchanceté de l'homme. Et le texte prend le temps d'indiquer vraiment, là, pour nous juste nous rappeler, c'est comme un refrain qui revient là. Tout ce qui mouvait sur la terre, tous les bétails, tous mourus. Tout ce qui avait des narines, tout ce qui était sèche sur la terre mourut. Tous les êtres vivants, ils répètent ça quasiment dans chaque verset pour nous rappeler que c'est pas une histoire, c'est pas une fable. Hein. C'était Dieu à l'œuvre et que vraiment ça a passé et que les gens sont morts. Waouh! Quel jugement, n'est-ce pas? Qui pourrait subsister? Est-ce qu'on peut parler d'un Dieu d'amour? Mais oui, qu'on peut parler d'un Dieu d'amour. Est-ce qu'on peut parler d'un Dieu de justice? C'est un Dieu de justice aussi. Ces hommes-là, ces femmes-là, du temps de Noé, ils avaient le temps, n'est-ce pas, pour changer d'avis. Noé avait prêché pendant combien de temps? Tout le temps qu'il bâtissait son arche, n'est-ce pas? Et je crois que bien même avant que Noé avait commencé l'œuvre de la construction de l'arche, il y avait un sens de bien, parce que Noé était trouvé juste aux yeux de Dieu. Et avant Noé, on a vu d'autres personnes qui ont choisi de vivre selon la volonté de Dieu. Les hommes ont choisi de faire le mal, et Dieu les a punis. Les hommes ne pouvaient pas accepter cette révélation-là de Noé. Ils étaient sûrement de fous. Est-ce que ça a changé? L'apôtre Paul nous dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui sont sauvés, elle est une puissance de Dieu. Est-ce que les contemporains de Noé croyaient qu'il était fou? Mais oui, ils croyaient. Ils parlaient d'un salut. Quel salut? Encore aujourd'hui, on peut entendre les gens se poser cette question. Pourquoi ai-je besoin de Jésus-Christ? Pourquoi? Les prédicateurs, la prédication de Noé pour le changement des cœurs des gens n'a pas porté fruit. Malheureusement, Dieu a dû repasser à l'acte pour détruire l'humanité. N'essayons pas en passant de comprendre les œuvres de Dieu, n'est-ce pas? Ça nous dépasse. N'essayons pas de comprendre avec notre petite intelligence. Soyons seulement en obéissant. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, obéissons, n'est-ce pas? Noé, est-ce qu'il a compris toute l'ampleur de l'affaire? Je suis sûr qu'il n'a pas compris. Mais saisi d'une crainte profonde et sûrement de soumission envers Dieu, il a créé, il a construit cette arche-là et qui a sauvé sa famille. Et c'est ce que Jésus-Christ fait pour nous aujourd'hui, hein, quand on veut se remettre à lui. C'est ce qu'il veut et nous sauver de ce jugement-là à venir. Dans Hébreux 11, verset 7, il dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille, car c'est par elle qu'elle condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Tout se passe par la foi. Pas parce que Noé avait une compétence, il était fin, non, il était pécheur au même titre que nous. Il fait des gaffes. On va voir ses gaffes juste après le déluge dans le chapitre qui suit. Il va boire jusqu'à ce qu'il devienne sous. Ça, c'est le Noé qu'on a vu. Là. Dieu, par grâce, c'est pas parce qu'il est plus fin, meilleur que nous. C'est la grâce de Dieu qu'on voit à travers toute la Bible. Les hommes sont méchants dans leur cœur. Là, ils pompent du péché dans leur cœur. Mon cœur, il ne pompe pas péché. Mais Dieu, il me fait grâce quand je me tourne vers lui dans la repentance. Est-ce qu'il veut faire pour toi ce matin? Si tu es ici ce matin, tu ne connais pas la grâce de Dieu. Je vous invite à parler à quelqu'un. Ne partez pas d'ici sans connaître cette grâce qui peut donner l'espérance de la vie éternelle, de ne pas passer en jugement. La Bible nous dit qu'il y a un autre jugement. Le jugement de Dieu va s'abattre sur le monde. Cette fois-ci, dans le temps de Noé, c'était par l'eau. Mais vous savez qu'il y a un autre jugement et Dieu nous dit ce ne sera pas par l'eau, ce sera par le feu. Et ça va arriver parce que Dieu l'avait dit. Est-ce que le déluge, c'est un mythe ou un jugement de Dieu pour vous? Romains chapitre 15, verset 4. Voulez-vous tourner avec moi? Romains 15, verset 4. C'est l'apôtre Paul qui nous rappelle, or que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédons l'espérance. Malgré tout ce qu'on peut vivre aujourd'hui, par la patience et la consolation que donne l'Écriture, nous pouvons avoir l'espérance. Mais ce que nous avons lu, c'est vraiment passé. Et c'était fait pour notre instruction. Pourquoi j'y crois? Pourquoi je crois que ce que dit la Bible est vrai? Premièrement, parce que la Bible est inspirée de Dieu, j'y crois. Parce que la Bible en parle. La Bible, c'est la parole de Dieu. Mais vous savez que Jésus-Christ en parle aussi. Jésus-Christ, c'est notre modèle, c'est notre Seigneur, c'est notre Sauveur, c'est notre Dieu. Il nous parle de cela aussi. Je vous invite à tourner avec moi dans Matthieu 24, 37. Matthieu 24, 37. C'est bon de tourner et de voir ces vérités-là. Je vous invite à le faire. C'est Jésus-Christ qui parle et fait allusion à cet événement que nous venons de lire dans l'Ancien Testament, que beaucoup de personnes pensent que c'est une fable, c'est un mythe. Jésus-Christ, dans Matthieu 24, 37, il dit quoi? Ce qui arriva au temps de Noé. Qu'est-ce qui arriva au temps de Noé? C'est le déluge que nous avons lu là. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui en parle dans le Nouveau Testament là. Il fait référence à cette fable là, donc, que les hommes parlent là. Et dans d'autres occasions, il va faire référence à une autre fable que les hommes ne croient pas. Le gros poisson Jonas, il va parler de Jonas. Comme pour vraiment authentifier ces histoires là, ces récits là. Jésus-Christ dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera. C'est pas encore arrivé, mais il va arriver. De même, à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, mariaient les enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. L'avènement du Fils de l'homme, c'est une vérité, ça va arriver. Notre Seigneur Jésus-Christ le dit. Tournons avec moi dans le même chapitre, verset 35. Dans son discours, il continue, en fait, c'est le même discours qui continue. Mais Jésus-Christ dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Ces paroles-là, nous dit la Bible, ne passeront point. C'est la vérité, c'est la vérité, et c'est la vérité, c'est notre Seigneur qui le dit. Un jour va arriver où le jugement de Dieu va s'étendre sur la terre. Mais quand est-ce que ça va arriver? Ça fait longtemps qu'il en parle. Ça fait longtemps. Tous ces prophètes-là en ont parlé. Là. Puis Jésus-Christ en parle. Jean-Baptiste, il voulait en parler, on l'a coupé la tête. Quand est-ce que ça va arriver? Beaucoup de gens se posent cette question-là aujourd'hui. Pensez-vous que dans le siècle précédent, ils n'ont pas posé cette question-là? Et dans les siècles précédents, ils n'ont pas posé cette question-là? Ben oui, ça ne passe pas notre entraînement. On ne veut pas croire qu'un Dieu d'amour puisse juger par le déluge ou par le feu ou envoyer du monde en enfer. Mais c'est ce que la Bible nous dit tout à fait le contraire. Et je vous invite à tourner un dernier texte. Et nous allons conclure avec ce texte dans 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Je vous invite vraiment à lire ce texte-là avec attention. 2 Pierre chapitre 3, versets 1 à 18. Ça parle de l'avènement du Seigneur. Cet avènement-là, les noces de l'agneau qu'on parlait tantôt. Là. Et tout ça, c'est lié à l'histoire, le fait véridique de l'arche de Noé que beaucoup ne croient pas. Pierre, il dit comme ça, « Voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu et pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans, c'est comme un jour. Le Seigneur, il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre piété? Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon la promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul, vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il a fait dans toutes ses lettres. où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant, pour l'éternité. Amen. Est-ce que vous voulez croître dans la grâce en attendant ce glorieux retour? Vous savez comment il faut croire, on peut croître dans la grâce? C'est en passant du temps dans ce livre-là. En étant obéissant, en passant du temps et en étant obéissant à ce qui est inscrit dans ce livre-là. Voulez-vous vous engager à le faire? Je vous invite. Quelques-uns, si vous voulez. Venez prier avec moi ici. Venez. Si vous êtes prêts à vous engager, à vous soumettre aux paroles, aux instructions, aux commandements de ce livre-là, dans la soumission, parce que c'est ça qui va nous aider à croître, à grandir et garder nos cœurs purs et sincères jusqu'à son retour. S'il y a quelques-uns qui veulent prier avec moi, venez prier. On va prier ensemble. Trop bon nom. Notre Dieu, notre bon Père Céleste, ta parole a été claire ce matin. Les preuves de tes bontés sont grandes. Les preuves de ta colère sont grandes aussi. Merci pour cet exemple de la vie de Noé, un homme pécheur comme nous, mais qui a placé sa confiance en toi et qui a été épargné de ce jugement. Merci pour l'avertissement que nous donne ce récit, qui nous met en garde, qu'on puisse veiller sur nos actions, sur nos actes, qu'on puisse apprendre à te connaître de plus en plus et croître dans la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par ton Saint-Esprit qui agit en nous. C'est en son nom que nous avons prié. Amen.